À l'occasion de l'édition de la correspondance de Jean Dubuffet et Alain Bourbonnais, les deux pionniers de l'art brut et de l'art hors les normes, l'atelier Jacob réouvre ses portes pour une exposition éphémère.
Cette galerie donc a été ouverte en 72 par Alain Bourbonnais, notre père, et avec l'aide de Jean Dubuffet. On était dans le quartier des galeries et il connaissait absolument, on passait notre temps à aller dans les galeries, il connaissait plein d'artistes. Et il a commencé à collectionner plutôt des artistes du groupe Cobra, genre Carrel Appel, Corneille, qui sont devenus des amis. Et puis aussi, il avait un autre pan, il aimait aussi beaucoup l'art populaire, donc il avait un peu voyagé au Portugal, etc. Il avait ramené beaucoup de jouets en bois, mais dans les années 50, donc des très belles choses qui évidemment ne se font plus. Donc voilà, c'était une collection qu'il faisait de façon un peu hétéroclite, mais lui-même étant aussi créateur. Donc il a écrit à Jean Dubuffet en lui envoyant des photos de ses créations. Dubuffet a été interloqué et lui a dit tout de suite « Mais oui, bien sûr, je voudrais vous rencontrer, venez à l'art brut. » Ils se sont rencontrés et mon père en sortant lui a dit « Mais moi j'ai envie de faire quelque chose sur Paris » et Dubuffet lui a dit « Je vous aide ». Et il est rentré chez nous, rue Jacob, ici, et il voit que la librairie, c'était une librairie de langues étrangères ici, très renommée, fermée, puisque les gens partaient à la retraite. Et il dit « Mais c'est pas possible, vous m'avez pas averti, on se connaît depuis 20 ans, vous me dites pas que vous partez à la retraite. Est-ce que votre librairie est vendue, votre bail ?»« Ah bah oui, c'est fait, mais... » Il leur dit, vous êtes architecte, on ne voit pas ce que vous allez faire d'une boutique. Ah ben oui, depuis 5 minutes, j'ai une autre idée. Il me faut votre boutique. Ah ben oui, non mais c'est pas possible, c'est fait, le bail est conclu. Bon. Et il a détricoté tout ça avec la chancellerie des universités qui est propriétaire de l'immeuble. Et il a finalement obtenu cette galerie. Et là, on a ouvert en 72 avec une exposition prêtée par Jean Dubuffet, la collection de l'art brut. Donc ça, c'était l'exposition inaugurale qui était magnifique, qui a été prolongée et qui a vraiment lancé la galerie. Ensuite, Dubuffet lui avait donné une liste de 35 noms pour qu'ils se mettent en rapport avec eux, dont Émile Ratier, que vous avez vu là-bas. Il y en a plusieurs autres qui sont exposés ici, Marie-Rose Lorté, Ringel. À la suite de ça, donc mon père a fait cette galerie et il a entretenu une correspondance de 72 à 84 avec Jean Dubuffet. Il y a 114 lettres, avec des hauts et des bas entre les deux hommes, forcément. Ni l'un ni l'autre n'était facile, mais bon, quand même des lettres très chaleureuses, très souvent, et beaucoup d'admiration l'un pour l'autre. Alors, sous le mot « réussite », il faut voir que ce n'était pas du tout une réussite commerciale, parce qu'à l'époque, l'art brut n'avait aucune cote et ne se vendait absolument pas. Donc, par contre, c'était une réussite sur le plan du public. On avait un public énorme et énormément de presse. Et beaucoup de critiques d'art de l'époque nous ont suivis régulièrement, style André Laude, Pierre Restany, Michel Ragon, qui était aussi un ami de notre père. Vraiment Pierre Cabanne, enfin des gens qui comptaient à l'époque dans le monde de l'art, nous ont suivis, nous ont écrit des textes pour nos catalogues, pour nos expos, nous faisaient des papiers régulièrement dans la presse. Donc c'était une réussite sur le plan, voilà. Mais commercialement, à part quelques-uns qui se sont vendus, style par exemple Verbena ou Chichoro, mais le reste, personne n'en voulait. Donc au bout de 10 ans, notre père s'est dit « Bon, c'est bien joli, mais là je suis en train de me ruiner parce que avoir une galerie, ça coûte quand même cher. » Enfin, même si le loyer n'était pas exorbitant, mais justement, la chancellerie a voulu augmenter le loyer. Lui, il achetait beaucoup de... En fait, il était le premier acheteur de ses créateurs, c'est comme ça qu'il s'est fait sa collection. Et bon, il dit « maintenant j'en ai marre, de toute façon ça n'intéresse pas les gens. » Enfin, ça les intéresse, mais ils ne veulent pas acheter, ils me cassent les pieds, Je vais ramener tout ça dans ma maison de campagne dans Lyon. Je vais installer ma collection chez moi. Ils font entre parenthèses tous chier, je m'en fous. Et voilà qu'on avait une maison. Il avait acheté en 1960 une maison dans Lyon. Et il a racheté petit à petit plein de granges, plein de maisons devant. Enfin, on a toute la rue maintenant. Bon. Donc petit à petit, il a agrandi. et il a aménagé ce qui est devenu la fabuloserie, qui n'était pas faite au départ pour être ouverte au public, qui était uniquement pour mettre en scène sa collection. Très bien mise en scène, puisqu'il avait construit des théâtres, il avait fait dans sa jeunesse des décors de théâtre, beaucoup, avec George Wilson, il avait travaillé, et il a fait une ouverture au public en 83, uniquement pour les gens du village, enfin une petite ouverture. Ça a eu un succès fou. Et puis après, il s'est dit, bon, bah, finalement, oui, il vivait plus à la campagne. Après, il avait un peu arrêté sa profession. C'est parce qu'il créait beaucoup, il s'était construit un atelier. Il faisait des turbulents, il peignait, il faisait des gravures. Et du coup, on s'est mis à ouvrir cette fabuloserie uniquement le week-end. Et peu à peu, les gens sont venus. Mais bon, très peu au départ. Mais il y a eu aussi un événement très important. Après, en 87, on lui a donné le manège de Petit Pierre. Donc, le manège de Petit Pierre, c'est vraiment une œuvre étonnante, faite par un garçon vaché du Loiret, et qui avait en fait le syndrome de Treacher-Collins, un truc comme ça. En fait, c'est une déformation uniquement physique. Il n'avait pas de palais, il avait la tête toute déformée, mais le cerveau fonctionnait très bien. Et ce Petit Pierre faisait visiter son manège pendant 20 ans dans sa ferme, enfin dans la ferme où il était hébergé, où il était garçon vaché. Et après, il est devenu âgé, il ne pouvait plus l'entretenir et le manège a été vandalisé. Et des personnes qui le connaissaient se sont penchées sur son cas, surtout qu'il y a eu un très bon film, court-métrage qui passait, du temps où il y avait encore des courts-métrages avant les longs-métrages. Donc ce manège a été très connu et par exemple Laurent Danchin, qui est un critique d'art brut maintenant, a remué ciel et terre auprès du ministère de la Culture pour sauvegarder ce manège. Tout a échoué et un jour le frère de Laurent Danchin, de Petit Pierre, dit à Laurent Danchin, mais on fait quoi ce manège? Et Laurent Danchin lui a dit, il y a un endroit, c'est la fabuloserie. Vous donnez à la fabuloserie, le Bourbonnais, il va s'en débrouiller. Et nous voilà partis à démonter le manège de Petit Pierre en 87. Et mon père est mort brusquement en 88. Le manège était un tas de ferraille entreposé chez nous. Et tous les bénévoles qui avaient aidé à démonter le manège, mon père avait aussi fait tous les plans, évidemment, etc., ont aidé, sont venus voir ma mère et lui ont dit « on vous aide, on remonte le manège ». Et il a été inauguré en 89. Et depuis, voilà. Et il émeut toujours autant les gens. Les gens pleurent parfois, hein. C'est étonnant. Et donc on s'est dit, finalement, ça serait peut-être plus cohérent de se servir de notre boutique pour faire une antenne de la fabuloserie, pour lui donner plus de visibilité sur Paris, parce que c'est un endroit très connu, mais encore finalement pas assez connu, on trouve, et tous les gens qui y vont le disent, mais ils disent c'est pas possible que ce soit pas autant connu. Et donc on a ouvert ça, là, en septembre, et c'est quasiment la folie, je dirais. Et alors ensuite, mais ça, on y avait réfléchi avant, on avait ce projet de correspondance à éditer. C'était l'idée de Déborah Couette, qui est une historienne de l'art, doctorante, qui est en train de faire une thèse. Et elle avait toujours dit qu'il faut absolument éditer cette correspondance entre Dubuffet et Alain Bourbonnais. Et dès le début du projet, on a été mis en contact chez Albin Michel avec Nicolas de Cointet, qui est directeur de la collection Beaux Livres. Et ils se sont dit, au lieu de faire un livre de correspondance qui va intéresser 100 personnes ou 102, parce que bon, on va faire un beau livre. Et donc, il est très illustré. Et toujours en rapport avec les lettres, évidemment. Et Déborah Couette a fait beaucoup de focus, beaucoup de notes. C'est à la fois un livre de référence et un livre d'art. C'est pour ça qu'il aboutit finalement à un pavé de 480 pages.